Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je crois que je suis très estimé par mon peuple. Ma mentalité plaît à mon peuple. Parce que lorsque je parle, c'est à la satisfaction générale de tout mon peuple. Donc, à quoi bon de faire du tralala? À quoi bon de faire de m'as-tu vu? Je crois que ce qui importe à la République centrafricaine, c'est l'efficacité, dans le calme.
Pourtant, il ne va pas parvenir à installer ce calme que souhaitent les Centrafricains. Une chose est certaine, il aura été l'un des acteurs majeurs de l'histoire mouvementée et sanglante de la République centrafricaine qu'il aura dirigé pendant près d'une décennie. André Kolingba. Bangui, juillet 1981. Le pays est depuis quelque temps le théâtre de manifestations et de violences contre le régime de David Dacko qui a remplacé l'empereur Bokassa à la tête du pays. Les manifestations succèdent aux grèves. Bangui, la capitale, est même le théâtre d'un attentat sanglant le 14 juillet 1981.
Ces actes odieux de terrorisme aveugle qui ont chassé la consternation et le deuil dont toute la population sont l'œuvre des pires ennemis de la nation que nous condamnons avec véhémence. Il y avait donc incontestablement de très graves présomptions pour que le FCOPT de M. Goumba et le MCLN du Dr Idi Lala soient les instigateurs de ces attentats criminels de la veille. Ceci a été confirmé par le MCLN du Dr Idi Lala qui a revendiqué la responsabilité des attentats en précisant que cette action du 14 juillet n'était qu'un coup d'envoi. C'est pourquoi j'ai décidé en mon âme et conscience et en accord avec le gouvernement de la République, la mise hors la loi de ces partis et de leurs dirigeants. En conséquence, je proclame et ordonne la dissolution et l'interdiction des partis FPO-PT et MPLN, la suspension des activités du MLPC, l'arrestation des dirigeants et principaux responsables de ces partis, la création d'un tribunal d'exception, l'ouverture d'une information judiciaire pour incitation à la désobéissance et à la révolte, atteinte à la sûreté de l'État, assassinat et tentative d'assassinat, des mandats d'arrêt internationaux seront adressés dans tous les pays concernés afin que les responsables extérieurs soient recherchés, arrêtés et livrés à la justice de la République centrafricaine.
Malgré ces mesures, David Dacko, le chef de l'État, est de plus en plus violemment contesté. Même au palais, le personnel de la présidence ne travaille plus. Il faut dire que la situation économique, qui n'est pas des plus reluisantes, provoque l'impatience de la population. Cette impatience est amplifiée par des querelles ethniques. On reproche au président David Dacko de favoriser les Mbaka, son ethnie. Devant la pression de plus en plus forte de la rue et de l'opposition, David Dacko décide le 1er septembre 1981 de démissionner de sa fonction de président de la République de Centrafrique. Un comité militaire de redressement national, composé de 23 officiers généraux et supérieurs, avec à leur tête un certain général André Kolingba, va remplacer le gouvernement démissionnaire.
Il s'est instauré depuis bientôt 6 mois un champ de polémiques stériles durant lesquelles notre patriotisme a été mis à rude épreuve par les multiples et grossières violations de la démocratie et par le plus insupportable défi à la raison, à l'honneur et au droit. Aujourd'hui, c'est fini. L'armée met un terme à tout ça. Parfaitement conscient de son devoir sacré de veiller à l'intégrité du territoire national et à la protection des personnes et de leurs biens, mais consciente aussi d'une part de l'impuissance des partis politiques de l'opposition face à l'impasse où se trouve bloquée aujourd'hui la République et d'autre part de l'impérieuse urgence de la remettre sur les rails du progrès et compte tenu de l'état de santé du président, notre armée Votre armée a exigé et a obtenu sans effusion de sang la décrispation politique de la patrie par la démission du président Dacko et de son équipe. Elle conduira les destinées du pays jusqu'au moment opportun où les conditions seront réunies pour que les pouvoirs de l'État passent aux mains des civils. D'ores et déjà, je suspends la Constitution et tous les partis politiques. Et partant, toutes les activités sont interdites. Terme de rigueur sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre.
Passé les premiers moments de surprise et d'interrogation, le magazine panafricain Jeune Afrique, dans son numéro du 7 septembre 1981, écrit tout simplement « Le putsch militaire ne fut qu'une comédie dont il a été le complice actif. Un coup d'état d'opérette en somme. Un coup de théâtre. » C'est d'ailleurs ce que nous confirmait dans ce magazine le professeur Abel Ngoumba, qui était l'un des principaux acteurs de la vie politique centrafricaine de cette période.
Parce que c'est là, Dacko Bis, hein, après son renversement en 66, en 79, il a été renversé. C'était un passage de pouvoir, parce qu'il croyait naïvement qu'il donnait le pouvoir à Kolingba et que celui-ci lui repasserait dans les 6 mois. Parce qu'après les élections, les Français, il y a beaucoup qui ont même dit que on aurait dû mettre la barre un peu plus haut, parce que avec 50,23%, de toute manière, il ne tiendrait pas le coup. Tout le monde le savait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et Patassé, justement, moi aussi, me présenter, et nous avons organisé des manifestations. Et il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. C'était un passage de pouvoir, parce qu'il croyait que en donnant pacifiquement, gentiment le pouvoir à un militaire pour rétablir l'ordre, en l'occurrence Kolingba, ce dernier le lui restituerait. Évidemment, en Afrique, vous savez, quand on est au pouvoir, on s'y accroche. Hein. Et Kolingba est resté.
Même témoignage du président Ange-Félix Patassé, son principal opposant que nous avions également reçu dans ce magazine Archives d'Afrique.
Dacko, en partant pour Brazzaville, avait demandé au général Kolingba de prendre le pouvoir pour éliminer les membres du MLPC et de lui restituer le pouvoir quand il va revenir de Brazzaville. Mais quand Kolingba a pris le pouvoir sous la pression de Dacko, Kolingba n'a plus voulu rendre le pouvoir à Dacko. Et c'était ça la réalité.
Dans cette seconde moitié de l'année 1981, le nouvel homme fort de la Centrafrique s'appelle André Kolingba. André Kolingba naît le 12 août 1936 à Bangui, dans l'ancienne colonie française d'Oubangui-Chari. Il ne quittera cette ville qu'après ses études primaires et secondaires pour rejoindre l'école militaire des enfants de troupes de Brazzaville. Il est ensuite incorporé dans les troupes françaises en octobre 1954. Après 2 ans de formation théorique et pratique, puis un passage par l'école des officiers d'actifs de Fréjus, il rentre à l'école d'application des transmissions de Montargis, en France.
La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. J'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat de la République française reconnaîtront également cette indépendance et cette souveraineté. La France a ainsi, une fois de plus, prouvé aux yeux du monde que sa mission était la protection de la liberté. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais, en aucun cas, s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs, nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Et surtout, nous avons accepté conserver chez nous la langue française. Et pour avoir appris cette langue française, nous avons petit à petit adopté la civilisation française. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solides encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France. Je termine en souhaitant à vous-même, à votre gouvernement et surtout à celui auquel les Africains doivent leur liberté, leur indépendance, le président de la communauté, le président de la République française, le général de Gaulle, auquel vous tâcherez de confirmer les sentiments qui unissent la population de la République centrafricaine à ce grand homme.
Quel discours ! Ceci explique peut-être cela. Au moment où la République centrafricaine accède à l'indépendance, avec ce discours de David Dacko, 35 ans, qui traduit clairement la difficulté de ses dirigeants à prendre leur autonomie et à entamer de nouvelles relations avec la France, André Kolimba est officier dans l'armée. Et contrairement aux autres nations, où les soldats et gradés originaires du pays étaient immédiatement reversés dans la nouvelle armée, lui va rester dans les forces françaises. Il est même nommé officier de transmission de l'armée française à Brazzaville. Mais au cours de l'année 1965, c'est-à-dire 5 ans après l'accession de la Centrafrique à l'indépendance, il va demander son reversement dans les rangs des forces armées centrafricaines dont il a, il faut le reconnaître, contribué à mettre en place les structures premières. Le 31 décembre 1965, la République centrafricaine s'apprête à célébrer, comme on sait le faire en Afrique, notamment dans cette région d'Afrique centrale, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Personne ne se doute, à cet instant, que le destin tout entier du pays indépendant depuis seulement 5 ans va basculer. Le chef de la gendarmerie, Jean Isamon, a décidé de renverser le jeune président David Dacko pour occuper son fauteuil. Mais pour que son plan fonctionne sans accroc, il doit d'abord arrêter le chef d'état-major, qui n'est autre que le colonel Jean Bédel Bokassa, le cousin du président. Le chef de la gendarmerie ordonne alors à ses hommes de l'arrêter. Mais Bokassa, prévenu, prend les putschistes de vitesse et fait neutraliser la gendarmerie. Il ne s'arrête pas là. Il décide, pendant qu'il est encore chaud, de conquérir du même coup le pouvoir. Bokassa fait donc arrêter le président David Dacko et s'installe sur le trône. C'est le coup d'état de la Saint-Sylvestre.
Depuis ce matin, à 3h20, votre armée a pris le pouvoir de l'État. Le gouvernement Dacko est démissionnaire. L'heure de la justice a sonné.
David Dacko nous racontait ainsi les circonstances de ce putsch qui va mettre fin à son règne cette nuit de la Saint-Sylvestre.
Quand j'ai été arrêté du palais, je comptais sur l'armée nationale. Je n'avais pas, comme on l'avait dit à l'époque, une armée populaire quelconque ou même un service de sécurité. Je sortais au volant de ma voiture. D'ailleurs, ce soir-là, j'étais sorti et je suis rentré au volant de ma voiture quand le palais était déjà occupé par l'armée. Et quand le colonel Bokassa m'a arrêté, il m'a conduit au Rock Club. Sur la terrasse du Rock Club, il y avait la plupart des Européens de Bangui, notamment des Français, réunis. Et là, il m'a présenté, il dit, j'ai arrêté le président Dacko. Le président Dacko a vendu la République centrafricaine à la Chine, à l'URSS et à l'État d'Israël. Tout simplement parce que j'avais reconnu ces pays, j'étais parmi les premiers à reconnaître ces pays. J'arrache la République centrafricaine à ces pays pour la redonner à la France. Vive la France. Ça résume tout.
Le nouvel homme fort de Bangui qui a fait mettre son cousin et prédécesseur en prison va nommer André Kolimba au cours de l'année 1966 qui commence à la tête du premier bataillon de transmission des forces armées centrafricaines. Il restera 9 années à ce poste où il enseigne et forme des sous-officiers. Il leur dispense aussi des cours de mathématiques, d'électricité générale et la technique de radioélectricité. Mais cette période n'est absolument pas de tout repos puisque le président à vie, Jean-Bédel Bokassa, se méfie de cet intellectuel, de ce haut gradé en contact permanent avec les jeunes sous-officiers. Il va donc faire l'objet de diverses assignations à résidence, d'arrestations arbitraires. Finalement, le président va l'éloigner en l'envoyant comme ambassadeur à Ottawa, au Canada. En 1979, il quitte le foie canadien pour rejoindre Bonn, où il est nommé ambassadeur en Allemagne fédérale. Mais à Bangui, rien ne va plus. Les frasques de l'empereur Bokassa ont fini par lasser la population et ses soutiens français. Le 20 septembre 1979, l'empereur Bokassa Ier, qui a compris la gêne de certains de ses alliés occidentaux à le soutenir, est en visite chez l'un de ses nouveaux amis, le colonel Muammar Kadhafi de Libye. Il y est reçu avec tous les égards, puisqu'il représente un élément important dans le déploiement géostratégique du président libyen qui souhaite installer une base dans son pays, pas loin de celle des Français. C'est le moment que vont choisir les responsables militaires hexagonaux pour lancer leur opération. Ce soir-là, quelques avions quittent discrètement l'aéroport militaire de Bayonne, en France. Dans ces aéronefs, se sont installés des parachutistes français. Et un passager un peu particulier, David Dacko. Après un peu plus de 5 heures de vol, les parachutistes prennent nuitamment d'assaut l'aéroport de Bangui et occupent les points stratégiques de la capitale.
Ici, Massamba Mbodio, Bangui, République centrafricaine, 20 septembre 1979. Il est 23h55. Cette nuit s'est produit ce que nombre de centrafricains, depuis 14 ans, soumis à un régime dictatorial, attendaient avec impatience. Le retour à la République. Ce retour se sera effectué dans le calme parfait et dans la joie. Cette joie qui anime tous ceux qui recouvrent la liberté après l'avoir perdue.
Cette annonce radiodiffusée va faire l'effet d'une bombe à Bangui. La population n'y croyait plus. C'est la liesse populaire dans tout le pays qui n'espérait pas une telle délivrance de sitôt.
Ce fut un cauchemar où nous avons vécu pendant 14 années. Et en ce moment, c'est une résistance populaire.
Est-ce que vous apportez un soutien au nouveau président de la République?
Effectivement, oui, au président Dacko, d'avoir mis fin à ce cauchemar.
Aujourd'hui, nous avons retrouvé de nouveau la République. Et alors, c'est une grande force de nous tous d'abord de voir aujourd'hui la République entre les mains de chacun. Et c'est bien. Et je souhaite à Dieu de garder tout le monde, de sauvegarder tout le monde pour qu'il n'y ait pas du sang, il n'y ait pas du trouble, que ça se joue dans le calme. Et nous ayons maintenant une force de nous et de reprendre vraiment nos travaux, nos champs, nos activités normaux et puis la fête, normalement dit. Alors je me trouve devant vous, je n'ai pas assez d'arguments parce que j'ai trouvé par la fête la gaieté de retrouver notre République. Nous sommes sortis enfin des griffes du lion.
David Dacko, accueilli comme un sauveur par une bonne partie de la population, annonce tout de suite la couleur.
J'ai pris la tête de ce gouvernement de salut public en ma qualité de seul chef d'État centrafricain élu par vous au suffrage universel. Au nom de ce gouvernement de salut public et du peuple centrafricain, je proclame solennellement la déchéance de l'empereur Bokassa Ier, indigne d'occuper les fonctions de chef d'État par sa participation avérée à des massacres d'enfants en janvier puis en avril 1979.
Ce changement de régime à Bangui marque un tournant décisif dans la carrière militaire d'André Kolimba qui quitte aussitôt son poste d'ambassadeur à Bonn pour rentrer au pays. Mais pourquoi faire? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale André Kolimba, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Les Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je suis un homme discret. Parlons peu et travaillons davantage. Je voudrais qu'on remarque mon travail sur le terrain. Et non dans les dires. Et non sur les antennes de la radio. Je suis un homme du terrain.
Discret, jusqu'à cette année 1979, il a été, puisqu'il a surtout occupé les fonctions d'ambassadeur de la Centrafrique à l'étranger. Méfiant, l'empereur Jean-Bédel Bokassa, pour l'éloigner des sous-officiers dont il était le formateur, l'a tantôt envoyé à Ottawa au Canada, tantôt en Allemagne fédérale. C'est donc un personnage peu connu du grand public qui choisit de retourner au pays après l'opération Barracuda montée par les Français qui a fait tomber le vieux soudard qui appelait le général de Gaulle Papa. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, André Kolingba.
Notre pays s'effondre. Le régime détesté qu'il exploite depuis tant d'années s'est décomposé. Depuis 14 ans, le pays a été exploité par celui qui s'en est fait proclamer empereur et qui, de plus, a rabaissé notre patrie aux yeux du monde par ses excès, son ridicule, sa folie de grandeur qu'il a entièrement ruiné. J'ai pris la décision de rétablir la République centrafricaine et de vous appeler officiellement à vous unir à moi. Aujourd'hui, pour renverser la monarchie de Bokassa, élaborer le difficile programme d'union nationale qui va permettre le retour de la liberté.
André Kolingba va prendre à la lettre l'invitation du président David Dacko, puisqu'il quitte ses fonctions d'ambassadeur pour retourner au pays. En 1981, l'officier supérieur est nommé chef d'état-major des armées. Mais l'espoir suscité par le départ de l'empereur Bokassa n'est pas satisfait par David Dacko, qui peine à apporter des solutions à une économie exsangue. Et l'on assiste à une montée progressive des tensions ethniques. On reproche au président David Dacko de favoriser les Mbaka, ethnie dont est issu Barthélemy Boganda, et dont fait partie Jean-Bédel Bokassa lui-même. Bien qu'ils tiennent les rênes du pouvoir, des forces de l'opposition s'organisent. À Bangui, en juillet 1981, la grogne monte. Les manifestations succèdent aux grèves. Bangui est même le théâtre d'un attentat sanglant le 14 juillet 1981.
Ces actes odieux de terrorisme aveugle qui ont jeté la consternation et le deuil dans toute la population sont l'œuvre des pires ennemis de la nation que nous condamnons avec véhémence. Il y avait donc incontestablement de très graves présomptions pour que le FCOPT de M. Goumba et le MCLN du Dr Idi Lala soient les instigateurs de ces attentats criminels de la veille. Ceci a été confirmé par le MCLN du Dr Idi Lala qui a revendiqué la responsabilité des attentats en précisant que cette action du 14 juillet n'était qu'un coup d'envoi. C'est pourquoi j'ai décidé en mon âme et conscience et en accord avec le gouvernement de la République la mise hors la loi de ces partis et de leurs dirigeants.
Malgré ces mesures, David Dacko est de plus en plus violemment contesté. Même au palais, le personnel de la présidence ne travaille plus. Il faut dire que la situation économique stagnante provoque l'impatience de la population. Cette impatience est amplifiée par des querelles ethniques. Devant la pression de plus en plus forte de la rue et de l'opposition, David Dacko décide, le 1er septembre 1981, de démissionner de sa fonction de président de la République de Centrafrique. Un comité militaire de redressement national, composé de 23 officiers, généraux et supérieurs, avec à leur tête un certain général André Kolingba, va remplacer le gouvernement démissionnaire.
Il s'est instauré depuis bientôt 6 mois un champ de polémiques stériles durant lesquelles notre patriotisme a été mis à rude épreuve par les multiples et grossières violations de la démocratie et par le plus insupportable défi à la raison, à l'honneur et au droit. Aujourd'hui, c'est fini. L'armée met un terme à tout ça. Parfaitement conscient de son devoir sacré de veiller à l'intégrité du territoire national et à la protection des personnes et de leurs biens, mais consciente aussi, d'une part, de l'impuissance des partis politiques de l'opposition face à l'impasse où se trouve bloquée aujourd'hui la République, et d'autre part, de l'impérieuse urgence de la remettre sur les rails du progrès, et compte tenu
l'état de santé du président. Notre armée, votre armée a exigé et a obtenu sans effusion de sang la décrispation politique de la patrie par la démission du président Dacko et de son équipe. Elle conduira les destinées du pays jusqu'au moment opportun où les conditions seront réunies pour que les pouvoirs de l'État passent aux mains des civils. D'ores et déjà, je suspends la Constitution et tous les partis politiques. Et partant, toutes les activités sont interdites. Terme de rigueur sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre.
Comme c'est des traditions dans ce pays où Paris est omniprésent et installe sans gêne les dirigeants, celui qui arrive, le nouvel homme fort, préfère faire de suite allégeance à la France. Il ne faut surtout pas se fâcher avec celle qui a mis un homme dans un transal pour venir l'installer à la tête de la Centrafrique.
Il n'y a pas de changement avec la France, d'autant plus que ça fait depuis des années que nous faisons un chemin commun avec la France. Alors, c'est pas du jour au lendemain que nous changerons de position avec la France. La France aura toujours une position privilégiée. Et ça, je le dis en toute sincérité, parce que quand même, faut pas être ingrat.
Quel est votre premier souci aujourd'hui?
Mon premier souci aujourd'hui, c'est donner à manger au peuple centrafricain. Moi, je suis militaire, je vais vous parler naturellement. Moi, en ce moment, ce qu'il me faut, c'est de l'argent. Avoir une bonne somme d'argent, de l'ordre de 50 à 60 ou 70 milliards. Assurer, les chiffres peut-être astronomiques, mais assurer d'abord le salaire du peuple centrafricain, des travailleurs centrafricains, et ensuite, avec le peu d'argent qu'on a, essayer de régulariser un peu la situation arriérée et lancer le commerce pour essayer de redémarrer l'économie du pays.
Et cet argent, de qui l'attendez-vous?
De tout le monde.
Le silence de Paris signifie en somme que l'Élysée accueille plutôt favorablement ce changement. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, interrogé sur une éventuelle intervention de la France, s'étonne que l'on puisse même y penser.
Premièrement, c'est une affaire purement centrafricaine. Deuxièmement, les troupes françaises sont consignées. Troisièmement, elles n'auraient à intervenir que pour, s'il y avait un risque, la protection des coopérants, des assistants, des citoyennes et citoyens français. Point à la ligne. C'est une affaire purement centrafricaine. Voilà ce que je peux vous dire.
Oui, je crois savoir qu'il y a un corps expéditionnaire français qui se trouve en Centrafrique.
Oh là, corps expéditionnaire, comme vous y allez. Il y a là-bas, sous la direction du colonel Le Guen, des troupes qui ont un rôle d'assistance. Ce sont des troupes d'assistance qui d'ailleurs rendent de grands services à la population, soignent les enfants, et ils sont avec le plein accord du gouvernement de ce pays. Mais ce n'est pas un corps expéditionnaire, la France n'a plus de corps expéditionnaire à ma connaissance.
Est-ce que les Français qui sont là-bas sont en danger à l'heure actuelle?
D'après les informations que j'ai, absolument pas.
C'est plié et vendu. André Kolimba est le nouvel homme fort de Bangui. Présenté comme un homme calme, secret, débonnaire et bon chrétien, le général Kolimba cherche à se démarquer de son prédécesseur et à redorer le blason de son pays. Mars 1982. Le général de brigade François Bozizé, ministre de l'Information et de la Culture, limogé, tente un coup de force à Bangui contre André Kolimba. Le putsch est un échec.
Aujourd'hui, dans l'égarement et la confusion des esprits, mus par des ambitions incompatibles avec notre volonté initiale, les officiers ont cru pouvoir vous entraîner vers des aventures périlleuses et criminelles. Par un mensonge et honte, ils ont voulu faire croire que la République centrafricaine était menacée, incitant la population à la division et à la haine tribale à un moment où nous devons témoigner de notre attachement à la paix, à la fraternité, à la solidarité, gage de notre stabilité. Le peuple centrafricain, faisant preuve de maturité politique, n'a pas suivi les turpitudes de ses officiers égarés.
Le coup d'État manqué avait pour objectif visiblement d'installer Ange-Félix Patassé au pouvoir. Activement recherché, il se cache pendant plusieurs heures. Le président du MPLC, va finalement trouver refuge à l'ambassade de France où il arrive déguisé en nonne. La France refuse de le livrer à André Kolyomba.
Rien ne va plus entre Bangui et Paris. Les autorités de la République centrafricaine ont adressé aujourd'hui un ultimatum de 48 heures à la France pour obtenir l'extradition d'Ange Patassé, une personnalité d'opposition qui s'est réfugiée à l'ambassade de France à Bangui après un coup d'État manqué. Le conseiller du président Mitterrand pour les affaires africaines, Guy Pen, est en ce moment à Bangui. Bruno Albin.
Aux yeux d'André Kolyomba, le général qui a pris le pouvoir en septembre dernier, Ange Patassé, le président du mouvement de libération du peuple centrafricain, est à n'en pas douter le responsable de la tentative du coup d'État de la semaine dernière. Et pour le gouvernement de militaires en place à Bangui, l'occasion semble venue d'en finir avec ce leader accusé d'empoisonner la vie politique du pays. Il y a un an, Ange Patassé avait failli accéder au pouvoir. Il avait été battu lors de l'élection présidentielle dans des circonstances douteuses sur le plan de la régularité dans l'organisation du scrutin. À la chute de David Dacko, que voici, en septembre dernier, il se présentait comme le légitime prétendant à la présidence le jour où les militaires décideraient de rendre le pouvoir aux civils. Ange Patassé laissait même entendre que c'est avec son appui que l'armée avait pris le pouvoir à Bangui. Depuis, bien des choses ont changé. Et ce qui choque aujourd'hui, c'est surtout la manière de faire du gouvernement centrafricain. La France est placée en position d'accusé dans l'affaire du coup d'État, et ce, le jour même où Guy Pen, le conseiller de François Mitterrand pour les affaires africaines, se trouvait à Bangui pour désamorcer cette crise. En vain, semble-t-il, puisque l'ultimatum a été lancé sur les ondes de Radio Bangui quelques heures à peine après son départ pour Paris.
Cette tentative de putsch va amener André Kolyomba à durcir son régime. Même s'il affiche une volonté de ramener le calme, de faire la paix avec ses adversaires, il veut en finir avec cette contestation politique.
Le président Mitterrand, il connaît parfaitement la situation dans laquelle je me trouve en ce moment. Je connais aussi la mienne. Mais il faut maintenant trouver un compromis.
On peut effectivement parler aujourd'hui de dédramatisation.
C'est cela. Le coup que venait de monter Bouzizé, le tandem Bouzizé, Maïkoua et Patassé, je crois que c'est une bavure. Et ils se sont pris comme des gosses, des gamins. L'essentiel est maintenant de remettre la tranquillité, la paix dans le pays, la confiance dans le pays et reprendre les travaux que nous avons entrepris jusque-là.
André Kolyomba renforce son emprise sur l'armée. Elle se renforce de soldats de son ennemi. Auprès de lui, un officier des services français, le colonel Mention, arrivé dans le cadre de la coopération. C'est lui qui, manifestement, a fait échouer le putsch. Mention, qualifié de proconsul, est de toutes les décisions. Membre de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Française, il est le chef de la sécurité présidentielle centrafricaine. Il apparaît très vite comme l'éminence grise, le véritable maître du pays. André Kolyomba est plutôt fier de lui.
Le colonel Mention a malheureusement l'œil très fin.
Heureusement pour vous, malheureusement pour lui.
Parce que ce voleur, ce truand qui parcourt la République centrafricaine, ce dilapidateur, ce fraudeur, je parle de la fraude fiscale, mais ces gens, ils sont mis à découvert. Bon, les nostalgiques qui sont restés à l'extérieur, ceux qui ont saigné la République centrafricaine à blanc, qui ont sucé la mamelle de la République centrafricaine et qui veulent y revenir encore et qui ne peuvent pas revenir parce que le colonel Mention les connaît, les décèle à l'aéroport et les refoule. Avouez avec moi, madame, que le colonel Mention devient assez gênant pour tout le monde. En plus de cela, le colonel Mention est à la tête d'un groupe redoutable d'expatriés qui encadre la sécurité présidentielle, qui la forme, l'entraîne nuit et jour. Et ça décourage les bonnes volontés, madame.
Mm-hmm. André Kolyomba accentue la répression contre ses adversaires pour affermir son pouvoir. C'est ainsi que le docteur Abel Ngoumba, arrêté en 1982, est condamné en avril 83. Mais après le passage du président François Mitterrand en Centrafrique, Kolyomba va annoncer la libération de 53 prisonniers, dont Abel Ngoumba, le président du Front Patriotique ou Bangui.
Les Centrafricains
ont eu la volonté de répondre aux appels en faveur du civisme. Ils ont su imposer la paix civile et retrouver les voies de la concorde nationale contre les aventuriers et les ambitieux. La vigilance de tous est la meilleure dimension contre ceux qui se bercent encore d'illusions. La République centrafricaine a besoin de tous ses fils pour notre but commun. Nous sommes prêts au retour de tous ceux qui se sentent disposés à œuvrer pour ce combat qui est pour le peuple centrafricain tout entier et avec lui. Ainsi, nos étudiants qui, demain, auront la charge de notre destin national, ont compris que leur avenir dépendait de la réussite du redressement national dans le calme et la paix. Ils ont fait montre en cela de maturité en choisissant de lier leur sort à celui du pays, de sa réussite économique qui leur ouvrira demain les emplois auxquels les destinent leurs études. Dans un monde de violence, de péril, de guerre fratricide, je déclare avec fermeté et sans ambiguïté que le peuple centrafricain a déjà trop payé son lourd tribut à la souffrance. J'affirme avec force que je combattrai sans pitié le fauteur de troubles qui, sous prétexte d'idéologie irresponsable ou d'intérêt personnel inavoué, tenterait de frapper notre pacifique peuple.
Dans la foulée, le président décide de mettre un terme au multipartisme. Il crée un mouvement unique au sein duquel il souhaite désormais que tous les Centrafricains s'expriment. Le Rassemblement démocratique centrafricain.
C'est que nous sortons d'une école. Nous avons connu un passé très difficile. Des cas de vol, des cas de viol, des incendies, des batailles tribales. Tout cela autour du multipartisme. Ça a saigné la République centrafricaine. Donc nous sortons de cette école et le peuple centrafricain en est resté très marqué. Et si j'ai été amené à parler d'un parti politique, c'est le vœu du peuple centrafricain.
On revient donc au parti unique en Centrafrique. Économiquement, les choses ne vont pas forcément mieux. Le grand problème de la RCA, la République centrafricaine, est que la plupart des indicateurs restent résolument rouges. Sur le plan de l'agriculture, seul le coton semble avoir bénéficié des mesures d'incitation à la production prises par le gouvernement en 1983, puisque sa production s'est accrue de 19%. Mais l'autre menace qui pèse sur son régime et sur la paix en Centrafrique vient cette fois-ci de l'extérieur, du Tchad voisin, où la guerre qui y sévit entre de plus en plus sur son territoire. Mais ce n'est pas tout. La position stratégique de la Centrafrique en intéresse plus d'un. Pas seulement la France. Un intérêt qui annonce des moments difficiles comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale André Kolingba. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique Les émissions ou sur le site archivesdafrique.com. Ou tout simplement sur votre portable ou votre téléphone en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Nous attendons également vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook qui compte plus de 590 000 amis. La première sur notre antenne. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Focat, nous vous donnons quant à nous rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite, avec l'espoir d'avoir retrouvé ma voix d'ici là.